Thierry Marx, la cuisine a-t-elle changé depuis ce début de 21e siècle? Est-ce qu'il y a un style des années 2000 en cuisine?
Oui, il y a un style des années 2000. D'abord, elle s'est en quantité, elle est moins importante qu'à une époque.
Et puis, on mange moins à chaque fois.
On mange moins et on mange mieux. Et on mange mieux.
C'est surtout dans les restaurants et surtout dans les restaurants gastronomiques qu'on mange moins.
Bien entendu, mais on mange moins et on mange mieux. Et on a compris enfin l'importance de la nature dans notre assiette. Donc le circuit court, tout ça, c'est une vraie évolution vers le bien-être, plaisir, bien-être et santé qu'on redécouvre aujourd'hui.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Thierry Marx et Bernard Thomasson, vous publiez l'Histoire à la carte aux éditions de La Martinière. C'est tiré de votre émission sur France Info. Les plats ont une histoire et c'est cette histoire que vous nous racontez. On apprend par exemple que la choucroute a été inventée par les Chinois.
Et le chou fermenté, c'est vrai.
Oui.
Une façon de le conserver, tout simplement. Le chou pointu, taillé finement, légèrement fermenté, et qu'on garde toute une partie de l'hiver, comme ça, pour le consommer.
Il paraît même que les ouvriers qui construisaient la Grande Muraille étaient nourris de choucroute, déjà, à l'époque.
Oui, on lui prête même des vertus de santé intéressantes au niveau du chou fermenté. Oui,
c'est vrai. Alors, comment c'est venu jusqu'au bord du Rhin, Bernard Thomasson?
C'est la légende qui fait que le chou fermenté serait né en Chine. Enfin, c'est une légende qu'il serait né par la muraille, c'est-à-dire que les ouvriers auraient été sous une tempête de neige qui durait plusieurs jours. Ils auraient mis leur chou, qu'ils mangeaient traditionnellement dans la neige, pour le conserver. Quand ils sont revenus, le chou était fermenté. Et ensuite, il a traversé toute l'Asie et toute l'Europe par les invasions des Huns, notamment, et puis des autres, les Tatars, les Mongols, etc., pour arriver jusqu'en Europe centrale, où là, les Allemands ont rajouté, enfin, je parle sous le contrôle de Thierry, mais les charcuteries de porc
et les charcuteries de bœuf aussi, et puis toutes les charcuteries fumées. Après, chacun y est allé de son morceau de lard.
Et alors, comment c'est arrivé jusqu'en France? À Paris d'abord, mais c'est par l'Alsace, hein, au moment de l'annexion de l'Alsace par la Prusse en 1870.
Exactement, mais après, c'est très rapidement arrivé à Paris, dans les grandes brasseries. C'était un plat assez convivial, donc on partageait assez facilement, facile à servir pour des restaurateurs, avec un coût matière assez faible. C'est-à-dire que c'est pratique pour le restaurateur de pouvoir ajouter au fur et à mesure l'ingrédient qui va augmenter le prix. Alors le chou simple, qui n'était pas une choucroute avec juste une tranche de saucisson, ça avait un certain prix. Et puis plus il y avait de saucisses et de poitrine fumée, plus la choucroute était chère. Mais pour la pratique du restaurateur et la mécanique opérationnelle du restaurant, c'était très pratique. Et évidemment, ça a eu un succès fou, et notamment dans les Halles de Paris.
Oui, et puis il y a deux Alsaciens célèbres, c'est les Lippes.
Léonard et Petroni, très joli prénom, Alsacien, peut-être pas, mais en tout cas Petroni Lippe. Ils sont venus effectivement poussés par les Prussiens, parce que quand la Prusse a envahi l'Alsace et la Moselle, il y a beaucoup d'Alsaciens et de Mosellans qui ne se sentaient plus chez eux, qui se disaient, voilà, on est envahis. Et donc ils sont partis avec leur tradition, et notamment la choucroute. Et Léonard et Petroni Lippe ont ouvert une brasserie boulevard Saint-Germain, qui à l'époque s'appelait la brasserie des Bords du Rhin, pour ne pas avoir un son trop germanophone, parce qu'évidemment l'ambiance était un peu anti-allemande époque. Et 40 ans plus tard, elle a été reprise par un Aveyronnais. Elle est redevenue la brasserie Lippe.
Voilà, qu'on connaît toujours aujourd'hui, et où on mange toujours de la choucroute. Le hamburger, alors il n'est pas américain, il est hambourgeois, évidemment, il vient de Hambourg.
C'est vrai, c'était vraiment de la viande hachée, de la boulette de bœuf, tout simplement. Et puis, on la connaît dans la culture ashkénaze, par exemple, cette boulette de bœuf. Et puis, quand elle part vers les États-Unis, bien, finalement, on lui trouve un contenant qu'elle peint. Et finalement, ça deviendra le hamburger américain, alors que c'est né en Europe, c'est né à Hambourg.
Et on sait qui a inventé les deux petits pains ronds.
Arkansas. Hein. C'est un Américain d'origine hollandaise qui a rajouté le pain parce que c'était plus pratique à manger, forcément. Sur le mot hamburger, vous dites que ça vient de Hambourg, forcément, parce qu'en Allemagne, il y a une tradition qui fait que les villes donnent le nom à certains plats. Par exemple, le Berliner, c'est un beignet aux fruits qu'on mange dans la région de Berlin. Le Bremer, donc la région de Brême, c'est du poisson. Le Frankfurter, bon, c'est la saucisse, évidemment, la Frankfurter. Et le hamburger, c'était cette boulette de viande. Et quand les exilés sont partis aux États-Unis sur les bateaux à partir de Hambourg, puisque c'était les grands bateaux qui amenaient tous les nouveaux arrivants américains, eh bien, on leur faisait ces boulettes sur le bateau pour pas les dépayser. Il y avait aussi à New York, à l'arrivée, des gens qui faisaient les boulettes. Et puis après, le type qui a inventé les deux petits bouts de pain. Et c'est revenu aujourd'hui en Europe, on dit c'est américain, mais pas du tout.
C'est Bill Ingram, hein, en 1921, au Kansas. Et c'est lui qui a d'ailleurs inventé, vous le racontez, la première chaîne de restaurants spécialisés.
White Castle.
Il y a encore 400 restaurants spécialisés dans le hamburger à l'époque. Et nous, on croit toujours que le hamburger est arrivé chez nous dans les années 70. En fait, non, il y a eu le premier Wimpy dès 1961.
Oui, dans les années 60. Et puis ça a été très... Comment dire, ça a connu un essor aux États-Unis grâce à Popeye. Assez bizarrement d'ailleurs, parce que ah oui, Popeye a eu un grand succès. Oui. Non, mais Wimpy, c'est le nom d'un personnage de Popeye. Et il mangeait beaucoup de ces fameuses boulettes de viande avec le pain, enfin, qui s'appelait peut-être pas d'ailleurs le hamburger à l'époque. Et du coup, c'est devenu très populaire aux États-Unis.
Ce qui est drôle, c'est que ce monsieur Jacques Borel, qu'on a beaucoup critiqué, beaucoup, et notamment ma profession,
à cause des restoroutes,
c'était assez visionnaire. Et les premiers restoroutes qu'il avait voulu construire pour ses autoroutes, il les avait fait avec de vraies cartes, avec de vrais chefs. Ça n'a pas marché, mais il avait une venue et il avait anticipé aussi cette venue de cette américanisation de la gastronomie. Il avait créé Wimpy, qui en avait à l'angle de la rue d'Amsterdam et de la gare Saint-Lazare.
Dès 1961. La pêche Melba, alors ça c'est une cantatrice de Melbourne, qui se faisait appeler Melba.
Porteur Mitchell de son vrai nom.
Et je pense que Auguste Escoffier était tombé sous le charme de Daniel Melba. Et quoi de mieux pour séduire que de créer un dessert ou un plat pour une telle femme. Donc je pense que Escoffier, qui est un grand de la cuisine, qui est un grand théoricien de la cuisine française...
Qui avait lui-même d'ailleurs, vous le rappelez, donné sa recette du hamburger dès 1902.
Exactement, avec les Bostock. Mais la pêche Melba, pour Nelly Melba, absolument divin, une pêche pochée au sirop, avec une légère gousse de vanille, et puis une glace vanille, la gelée de groseille, enfin tout ce qu'on connaît de la pêche Melba. Pas la dérive que l'on voit certaines fois avec un amas de chantilly dessus, mais vraiment, il avait créé une pêche parfaite. Et vraiment, c'était un monsieur élégant, Auguste Escoffier. Il avait, je pense que c'est un mode de séduction pour Nelly Melba.
Thierry Marc, c'est le rêve de tout cuisinier, non ? Comme de tout barman, il veut avoir un cocktail qui fait le tour du monde et qu'il a créé lui-même. Créer un plat comme ça un jour et qu'il devienne...
Oui, le laisser dans le patrimoine comme ça, c'est quelque chose d'énorme. Mais vous savez, la cuisine, c'est quelque chose d'assez magique. On n'est pas forcément un cuisinier pour nourrir les autres, mais il y a une espèce de confiance qui s'installe entre le faiseur et le convive qui est extrêmement intéressante à matérialiser un petit peu. Et je pense qu'Auguste Escoffier l'exprime tellement bien. Quand il rencontre les grands de ce monde, il les séduit avec des plats. Et ça, c'est formidable.
Ce qu'a fait aussi la mère Poulard au Mont-Saint-Michel avec sa célèbre omelette soufflée.
Exactement.
Là aussi, vous le racontez et vous en donnez votre recette,
oui,
évidemment, dans ce livre.
Parce que l'omelette soufflée de la mère Poulard, elle avait un sens. D'abord, quand on fait une omelette, il y a un geste qu'il faut absolument avoir. Il faut battre les œufs à la fourchette, c'est important. Et ensuite, on tourne gauche sur droite, droite sur gauche, pour bien mélanger l'omelette, pour qu'elle ait une texture. Et ensuite, on va la rouler et la faire souffler. Et ça, c'est intéressant parce que l'omelette de la mère Poulard fait le tour du monde. On en parle encore, vous savez, au Japon, vous savez, en Chine.
C'était il y a un siècle.
Donc, vous voyez, la cuisine, c'est quand même donner de la mémoire à de l'éphémère. Et quand vous y arrivez, finalement, c'est formidable.
Les coquillettes au jambon. Alors, c'est en vous lisant que j'ai appris que c'était un plat emblématique des Trente Glorieuses.
Les années 60, oui, parce que les pâtes ont connu leur essor au milieu du XXe siècle. Et c'est en France qu'on fabrique le plus de coquillettes, en fait. Il y a beaucoup de pays, c'est les macaronis, etc. Mais la coquillette, c'est vraiment un truc très français. Et c'est vrai que dans les années 60, c'est devenu très populaire. Pourquoi ? Parce que c'est à l'époque où les femmes commençaient à travailler de plus en plus. Elles avaient moins le temps de faire la cuisine. Et donc, elle faisait des plats simples et que les enfants adoraient. La coquillette jambon. En plus, il y avait la publicité à la télévision, la réclame, comme on disait, les fameuses pâtes, ivoire et carré, etc. Il y a eu cet essor de la coquillette jambon dans les années 60.
Ouais, nourrissante, pas chère, rapide à préparer. Et puis, en plus, s'il y a de la publicité à la télévision, c'est extraordinaire.
À la radio aussi, on peut le dire.
Vous précisez d'ailleurs, Thierry Marc, ça a été remis à l'honneur par Ducasse.
Complètement.
Il a sa version des
coquillettes jambon, qui est très intéressant. D'ailleurs, il va éviter de pocher la pâte à l'eau. Il va d'abord la faire revenir comme s'il faisait un risotto. Il y ajoute ses dés de jambon et il va, on dit le terme technique, c'est mouiller avec un jus de volaille et laisser cuire comme ça. C'est absolument délicieux.
Et les vôtres, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, puisque vous en proposez une recette aussi. Et je dois dire, la photo est splendide. On a très envie d'en manger.
On cuit avec une eau minérale un petit peu différente et puis on a une coquillette qui gonfle un peu plus et qui prend un peu plus en saveur.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, du pot-au-feu magie qu'on met dans l'eau avant de cuire les pâtes?
Je suis pas fan. C'est un produit dont je ne peux pas sourcer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça m'ennuie beaucoup quand je fais la cuisine.
Des photos, juste Frédéric, juste pour dire qu'elles sont signées Mathilde Lécoté et qu'elles sont sublimes. Elles donnent envie de manger les plats. et qui a aussi des dessins de Serge Bloch, qui est un grand illustrateur, qui dessine dans le New York Times notamment, qui nous a donné de la poésie dans ce livre.
On continue de parler de ces plats qui ont fait l'histoire et dont vous racontez l'histoire dans un instant.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h, Frédéric Taddeï.
On est toujours dans l'histoire à la carte, le livre publié par Thierry Marx et Bernard Thomasson aux éditions de La Martinière. Thierry Marx, est-ce qu'il peut y avoir un plat qui a une longue histoire, qui fait le tour du monde, sans qu'il ait son histoire, justement ?
La cuisine, ce n'est pas qu'une histoire d'ingrédients. Il faut un moment qu'il y ait un environnement autour qui fasse, qui va durer. Je prends de le lièvre à la Royale, par exemple.
Qui ouvre le livre, d'ailleurs.
Et quand on pense au lièvre à la Royale, Louis XIV, un serviteur qui lui fait un lièvre. Tout le monde sait que Louis XIV était édenté, avait une maladie de bouche assez importante, et il lui cuisinait énormément ses lièvres. Et il reconstituait le lièvre, il le désossait, il le reconstituait, il le momifiait, il le faisait cuire 6 heures avec les oreilles, et il le nappait de sauce, il le servait au roi. Le lièvre, alors, voilà une histoire qui est intéressante. Mais il y a la tarte aux pommes.
Un cendant à la tête de l'État, déjà.
La tarte aux pommes, effectivement, c'est un des chapitres.
C'est assez rigolo parce que c'est dans les années 60, Khrouchtchev qui va à New York, aux Nations Unies, pour un débat. C'est la fameuse session, il a tapé avec sa chaussure sur la table pour protester. Très célèbre. Mais quelques jours avant, quand il rentre dans l'avenue, c'est Park Avenue, où il y avait toute son équipe, il reçoit un paquet et là, branle-bas de combat parce que ça passe dans un truc pour voir s'il n'y a pas de j'avais pas encore de
comment on appelle ça
Détecteur de métaux. Je ne sais pas si c'était vraiment le terme à l'époque. Mais enfin, on se rend compte qu'il y a des choses un peu bizarres à l'intérieur. Donc, branle-bas de combat, on prend la boîte, on la met dans un camion militaire, on la met dans une caserne, on l'ouvre et là, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Une tarte aux pommes. Et c'était simplement un geste des pacifistes américains envers Khrouchtchev pour leur dire, voyez, nous, notre symbole culinaire, c'est l'apple pie, la tarte aux pommes. On vous l'offre parce que la cuisine est un vecteur aussi de solidarité, d'échange. Et on voudrait que vous évitiez de faire la guerre nucléaire. Voilà. Donc c'était une anecdote assez rigolote et c'est comme ça qu'on entame la tarte aux pommes.
La salade niçoise, c'est pour vous l'occasion de raconter que pendant très longtemps, on n'a pas osé manger les tomates. C'était le rouge de la tomate, c'était satanique. C'est un peu une histoire comme la pomme de terre. Hein,
truffe.
La truffe
d'ailleurs,
aussi.
On disait de la truffe noire comme l'âme d'un damné.
Et on n'en mangeait pas,
c'est vrai.
La tomate, qu'est-ce qui a fait qu'on a fini par en manger à Nice.
Elle est arrivée au XVIe siècle.
D'Amérique
du Sud. Elle est passée par l'Italie, par les Espagnols qui l'ont ramenée dans leur comptoir italien. Elle est remontée. Elle est arrivée dans la région de Nice. Et elle était rouge. Elle était de la famille de la belladone. La belladone, c'est un fruit un peu empoisonné dont on sert parfois pour faire des produits de maquillage. Et ce côté rouge et la famille de la belladone faisait qu'on n'osait pas la manger. On la faisait cuire parfois. Là, on faisait des coulis de tomates, des choses comme ça. Parce qu'on dit, en cuisant, au moins, elle perd de son maléfice. Et elle était surtout utilisée beaucoup pour la décoration dans les plats ou parfois en médecine. Les médecins, justement, pour son côté historique, l'utilisaient dans des pratiques médicales. Et c'est les Niçois qui, au début du 19e, tenaillaient par la faim, parce qu'il y a eu des grandes disettes à cette époque-là. Et Nice, à ce moment-là, était juste une petite bourgade tournée vers la mer. Ce n'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec la grande baie. Les Niçois, il y avait beaucoup de petits hameaux autour. Ils mangeaient juste ce qu'ils avaient dans leur jardin, donc des radis, des petites choses comme ça. Et il y avait des tomates. Et du coup, comme ils avaient très faim, ils ont osé croquer la tomate crue. Et donc, la salade niçoise, qui est une salade qui n'a que des produits cru, avec quelques anchois, vient de là et après la tomate a été consommée. Elle est remontée à Paris par les fédérés de Marseille pour donner la tomate farcie que Napoléon adorait. Enfin voilà, on peut vous en raconter des...
Thierry Marx, la seule meunière, ça paraît tout simple comme ça.
Oui, ça ne l'est pas. Parce que maîtriser la cuisson d'un poisson, c'est toujours assez compliqué. C'est vraiment une maîtrise du geste qu'il faut avoir avec du feu. Et la seule meunière, on s'attend à ce qu'elle ait une histoire, finalement, elle a une histoire assez simple, de la passer dans la farine, de l'habiller, comme on dit, et ensuite de la passer vivement dans la farine, et ensuite dans la poêle. Et ça, il y a toute une histoire autour qui est assez intéressante.
Bernard Thomasson.
Oui, c'est pour le général Boulanger.
Il y a forcément un meunier.
Oui, bien sûr. Il y a forcément un meunier. En l'occurrence, c'est une meunière qui avait un restaurant du côté de Clermont-Ferrand, parce que le général Boulanger, quand il a fait un peu son coup d'État, mais il faisait savoir qu'il était prêt à prendre le pouvoir, donc il menaçait la République, on l'a envoyé à Clermont, où il s'est fait un peu limoger, si on peut dire, ou clermonté, si on peut faire une analogie. Et il s'est retrouvé là, il est tombé amoureux d'une dame qui s'appelait Marguerite, et ils allaient vivre leurs amours dans une auberge qui était tenue par une dame Quinton, qui a écrit un livre un peu plus tard, et qui était en fait un ancien moulin qu'elle avait transformé en auberge. Et sa spécialité, c'est justement ce plat-là, la sole meunière qu'elle faisait dans la farine, et elle le préparait pour le général boulanger. Donc c'est rigolo qu'une ancienne meunière fasse une sole pour un boulanger, enfin voilà.
Alors, les moules frites, j'ai appris donc que c'était, on pense que c'est belge et uniquement belge, et que c'est arrivé par la Belgique, mais en fait c'était le plat emblématique des guinguettes au bord de l'eau au 19e siècle.
Ben, tout à fait, c'était vraiment le plat le plus cher. Encore une fois, il ne fallait pas que ce soit cher. Donc la moule n'était pas un produit cher qui se vendait au litre d'ailleurs. Et ensuite, la pomme frite qu'on taillait allègrement. Et ça a marché tout de suite sur le bord des guinguettes.
Et oui, et c'était facile à préparer.
Oui, encore une fois, un plat complet.
Voilà.
Alors, facile à partager et qu'on mange avec les doigts.
Ouais. Et après, on allait danser.
Et après, on allait danser avec le petit goût quand même. Persil, échalote, vin blanc, je ne suis pas sûr que ce soit très affriolant.
Mais c'était né en Belgique tout de même ? Parce que les Belges disent que c'est né en... La moule frite, ils disent que c'est 1875 Liège.
Oui, il y a un type, un certain Fritz qui avait effectivement des baraques à frites à l'époque, enfin l'ancêtre des baraques à frites, mais il y a une petite polémique là-dessus, même au musée spécialisé dans la gastronomie à Liège, je ne sais pas si c'est à Liège d'ailleurs, mais en Belgique, on dit que la frite est aussi à la fois française et belge. Bon, il y a une incertitude historique.
Il y a une particularité avec la frite belge, c'est que la frite française, souvent, elle était cuite, et très souvent d'ailleurs, à l'huile, or que la frite belge était cuite à la graisse de bœuf. C'est passablement différent en termes de digestion.
La soupe à l'oignon, ça c'est les Halles.
C'est les Halles.
Oui. Vous l'avez mangé d'ailleurs, Halles, hein, enfant. Hein.
Moi je l'ai mangé au Halles enfant, je l'ai mangé au bouillon Chartier. Et c'est vrai que ces bouillons, il y avait deux bouillons à Paris importants, il y avait le bouillon Chartier et le bouillon Duval. Et c'est très drôle parce qu'ils se tiraient un peu la bourre, il y avait cette fameuse soupe à l'oignon que j'ai eu la chance de déguster quand j'étais gamin. Et il y a une petite anecdote qui me fait toujours rire, qui n'est pas dans le livre, mais qui me fait toujours rire. Duval était un boucher qui avait réussi comme chevillard et qui avait monté ce bouillon Duval. Et on faisait cette fameuse soupe à l'oignon. Et Chartier était plutôt du type restaurateur qui avait monté le bouillon Chartier. Et Duval allait souvent manger chez Chartier pour voir un petit peu l'ambiance. Et Chartier lui disait toujours... vous venez chez moi parce que c'est meilleur. Et Duval répondait, non, je viens chez vous parce que chez moi, c'est complet.
L'histoire du couscous. Alors évidemment, on le sait, le couscous s'est répandu en France à partir de 1962 avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie. Ils ont apporté avec eux le couscous. Mais vous racontez que dès 1830, dès la conquête de l'Algérie, dans les grands restaurants parisiens, on servait du couscous.
Oui, c'est vrai. On retrouve cette recette du couscous chez les plus grands. On a même une explication parce que ce qui est formidable avec... avec l'émission, c'est qu'il y a des sonores. Et quand on entend parler d'une recette ancienne de couscous par Raymond Oliver, qui nous parle des méharistes, c'est absolument
Raymond Oliver, je le rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est le premier cuisinier qu'on a vu à la télévision.
Il était avec Catherine Langer.
Il était avec Catherine Langer, mais il avait 3 étoiles au Michelin.
C'était le chef du Grand Véfour. Le chef du Grand Véfour. D'ailleurs, il y a un très joli film qui s'appelle Le Gentleman d'Epson, où on le voit passer son émission, et donc il parlait déjà de ces plats, de ce couscous qu'on trouvait sur les cartes de restaurants français.
Alors, une dernière, laquelle vous préférez l'un et l'autre
Moi, j'ai une très très poétique que j'aime beaucoup, mais je crois qu'elle te plaît aussi, Thierry. C'est celle du soufflé de pommes de terre.
Ah oui, de Beauvilliers. Oui,
Beauvilliers qui a ouvert le premier restaurant. Alors, avant la Révolution, le mot restaurant, c'était le parti présent. On allait quelque part pour acheter quelque chose de restaurant, donc qui restaure. Et à partir de la Révolution, juste avant la Révolution, c'est devenu le lieu où on mange, le restaurant. Et Beauvilliers, en 1784, invente ce plat qui est le soufflé de pommes de terre, qui n'est pas facile à faire d'ailleurs, hein, Thierry, pour les jeunes cuisiniers.
C'est une vraie maîtrise pour un cuisinier de savoir faire un soufflet, de savoir le faire cuire, et surtout un gros soufflet de 8 personnes. Donc lui, son inspiration a été évidemment la première.
Voilà, parce que le 1783, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande s'envolent dans les airs de Paris. C'est le premier aérostat, c'est la première montgolfière qui survole Paris. Et alors, je ne sais pas si c'est la réalité, mais la réalité, c'est qu'il a inventé le soufflé de pommes de terre, ça c'est sûr. Et nous, on a trouvé de manière un peu poétique et romanesque que peut-être a-t-il vu l'année précédente dans le ciel de Paris ce ballon, cet aérostat, et qu'il a eu l'idée de trouver, enfin, ça l'a inspiré pour trouver ce plat du soufflé de pommes de terre.
Et d'ailleurs, dans les vieux livres que l'on consulte très souvent en termes de cuisine, le soufflet de Beauvilliers et part d'un plat à souffler. Et il y a cette boule dessus qui ressemble vraiment à
une montgolfière. L'histoire à la carte, c'est signé Thierry Marx et Bernard Thomassin. Et c'est paru aux éditions de La Martinière.
20h, 22h.
Europe 1 Social Club.